Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, 2, 3, 4.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born to build.
Et bonjour, c'est Baby Dinosaur. Baby Dinosaur qui sont avec vous. En différé, alors ça voilà, en différé, on est tranquille, on enroule, etc.
on se boit un petit coup de gel hydroalcoolique.
Voilà, et en tout cas, on va être diffusé à 21h30 comme d'habitude le dimanche 7 mars. Et donc, bienvenue au Bébé Dinosaure pour 1h30 de rock des années 70 ou de rock actuel qui rappelle les années 70.
Il y en a.
Voilà, et puis il y a les réalisations des grands anciens, comme Alice Cooper, qui a sorti hier, alors pas hier, le vendredi 26 février, un sortie mondiale d'un album qui s'appelle Detroit Stories, où il rend hommage au rock de Detroit. Alors, il y a des grands articles, alors dans la grande presse maintenant, hein, le Guardian a fait un gigantesque article sur Alice Cooper, qui est née à Detroit, mais en fait qui a passé sa jeunesse dans l'Arizona. Qui a commencé son groupe, le groupe Alice Cooper, à Los Angeles, et qui ont vraiment trouvé leur son à Detroit quand ils sont revenus dans cette ville de rock sauvage, attirés par le rock sauvage de la ville. Sur cet album qui a été fait cette année, il y a un certain nombre de chansons qui font allusion à la pandémie, mais il y a aussi surtout des musiciens de Detroit. Donc, par exemple, sur ce morceau qu'on va s'écouter là, on retrouve Steve Hunter et John Badaniak.
Ah là là, oui. Qui était déjà avec lui sur son EP Breadcrumbs précédent.
Voilà, et qui était dans le groupe Detroit qu'avait fait Mitch Ryder au début des années 70, et dans lequel ils avaient repris Rock'n'Roll de Lou Reed. Qu'ensuite, Steve Hunter et Dick Wagner, un autre type de Detroit. Qui avait été dans The Frost avant, ont joué avec Lou Reed sur son fameux album live, hein, Lou Reed Live, Rock'n'Roll Animal, ces deux-là. Et puis après, ils se sont fait repiquer par Alice Cooper en 75 sur l'album Welcome to My Nightmare.
Incestueuse.
Voilà, donc on est en terrain connu. Et bien, donc Alice Cooper reprend le rock'n'roll de Lou Reed en ouverture de son nouvel album avec donc Hunter, Badaniak, d'autres gens. Je n'ai pas la liste complète des musiciens. Mais on va s'écouter ça, ça fait toujours plaisir.
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine. To get her life was saved by rock and roll. Despite all the amputations, you could just dance to that rock and roll station, and it was alright.
It's alright.
Oh, it was alright.
We'll
touch it, his at all. She started dancing to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. Despite all the conflagrations, you could just dance to that rock and roll session, and it was all right.
Rock'n'roll, c'est le titre du morceau, ce n'est pas une imprécation, ce n'est pas une invocation. Le morceau de Lou Reed repris par Alice Cooper cette année.
Pas mal du tout.
Ouais, excellente version. Avec le guitariste et le batteur qui chacun ont l'occasion de se laisser aller tant qu'ils peuvent.
En fait, excellent. Alice Cooper n'a jamais été aussi bon depuis les années 70 qu'aujourd'hui. C'est incroyable.
Ouais, c'est... bon, alors il faudrait écouter tout l'album, hein, mais en tout cas, ce morceau, bon, évidemment, il n'est pas de lui, mais c'est largement... Ben, en fait, ça fait quelques années qu'il est retourné vraiment au rock, quoi.
Il y avait le EP précédent dont on parlait tout à l'heure, la Breadcrumbs, qui était déjà un hommage à Detroit. Là, c'était que des reprises, par contre. Il y avait déjà, effectivement, un son très, très, oui, enfin, très brut, quoi.
Attends, des reprises plus un morceau hommage à Detroit, qui s'appelle Detroit City,
oui,
Detroit
City 20,
quelque chose comme
ça. C'était en fait une reprise d'un de ses propres morceaux,
voilà,
sorti quelques années
avant.
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà.
Et il y a une version qui s'appelle Detroit City 2021 sur l'album. J'ai pas encore écouté en quoi il est différent des précédentes. Mais bon, il a peut-être mis à jour la liste de groupes dont il parle.
Et rappelons qu'il avait publié, en numérique, j'imagine, une reprise de Outrageous Just Cherry, qui est un groupe underground de Detroit qu'on connaissait bien, qu'on passait souvent dans des hits. Et c'est un choix quand même très très surprenant d'un groupe plutôt pop psychédélique. Et il en fait une très bonne reprise. Qui aurait pu penser, il y a 10 ou 15 ans, ou en 2005, quand on était à Detroit, qu'un jour Outrageous Cherry serait repris par Alice Cooper? C'est incroyable. Moi je dis bravo Alice, bien joué.
Ah bah il est devenu une sorte d'érudit du rock qui revient sur les trucs qu'il aime le mieux finalement. Il n'a plus besoin d'essayer de faire des choses commerciales pour tel ou tel truc. Hein.
Oui, oui, je crois qu'il est libre maintenant. Il a, au niveau du succès commercial, c'est dans les années 90 et 2000, je pense qu'il en a eu le plus. Hein. Il faisait des tournées énormes, des lives à gogo, une discographie pléthorique. Maintenant, il fait ce qu'il veut, c'est très bien. Et il s'avère que finalement, c'est un mec qui aime un peu ce qu'on aime nous aussi. Hein. Mais on n'en avait jamais douté, bien sûr. Enfin, voilà, sauf peut-être en écoutant certaines de ses disques.
Ce qu'il fallait écouter, c'était son émission de radio. Je ne sais pas s'il l'a fait toujours. Ah, ça. Mais il paraît que c'était pas mal du tout.
Ouais, d'accord.
Peut-être même meilleur que le bébé dinosaure, tu vois. Ça,
oh non, quand même, enfin, t'exagères. Ouais,
je dis peut-être, il faudrait que je vérifie. Hein.
Non, quand même, ne tromperons pas nos auditeurs. Alors, on va revenir sur New York, là, maintenant, qui était un peu une des bases de l'émission diffusée la semaine dernière. Avec à nouveau les Bratz. Donc, nous avons réalisé avec surprise que cet album, comment ça s'appelait déjà, Candy Love, non, merde. Oh zut, cet album des Bratz réédité.
Rock Candy.
Rock Candy, voilà. Rick Rivets ne figurait pas sur cet album. Et donc, alors, pour aller chercher des morceaux avec Rick Rivets, il faut chercher les premiers 45 tours. Et puis, la compile Criminal Guitar. Où il n'y a que des morceaux avec Rick Rivets, dont le parcours avec les Bratz est un peu compliqué, apparemment. Alors, c'est des morceaux. On retrouve les deux 45 tours sur cette compilation. On retrouve des morceaux enregistrés, des démos de 73, des extraits d'un concert de 76. Enfin, bref, pas mal de morceaux. Il y en a 16. Et là, Rick Rivets figure bien à la guitare. Et cette compil est sortie sur Rave Up Records en 2002. Rave Up Records en a ressorti une en 2017, je ne sais pas trop pourquoi, qui s'appelait Bratology, où en fait il y a un morceau en plus, un ou deux morceaux en plus, qui ne sont pas sur la Criminal Guitar, la première compile. Et sinon les autres c'est des doublons. Donc si vous êtes un fan absolu de Rick Rivets, vous pouvez vous procurer les deux. Hein. Mais enfin, Criminal Guitar c'est quand même la compile à voir, je pense. Notamment pour les deux 45 tours. Alors, sorti en 76 pour le premier et 77 pour le deuxième, sur le propre label de Rick Rivets, Whiplash Records. Mais, quand tu regardes la rondelle sur Discogs, j'avais expliqué ça la semaine dernière, sur le premier 45 tours, sur celui sorti en 76, sur la rondelle, il y a marqué 74. Donc, ils ont peut-être été enregistrés en 74 et sortis un peu plus tard. Pas beaucoup, j'ai fouiné, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos plus précises. Donc on va s'écouter un extrait du deuxième 45 tours des Bratz et le morceau Kuala Oud Queen. Yeah.
les Bratz, donc Quaalude Queen. C'est la face B de Bioman, c'est ça ?
C'est la face B de Bioman, effectivement, sorti en 77 et sans doute enregistré un peu avant. Et il faut rappeler qu'il y a un lien entre Alice Cooper et Bratz, car il semblerait que ce soit Alice Cooper qui leur ait trouvé leur nom. Alors qu'ils traînaient ensemble, Alice Cooper traînait pas mal dans les bars, hein, comme chacun sait. Au tout début des années 70, vers 72, au début, à la formation du groupe, quoi. Vers 72, sans doute. Et il était avec les Bratz, qui étaient déjà des figures locales un peu de la scène new-yorkaise. Et alors, il semblerait que ces jeunes voyous étaient en train, dans le bar, de foutre un peu le bordel. Et Alice Cooper leur aurait dit « Ah, oh, vous n'êtes que des... You're a bunch of brats. » Brats, c'est quoi ? C'est des voyous, quoi.
Des garnements.
Des garnements, ouais. Voilà.
C'est pas aussi brutal que voyous, hein.
Ouais. Oui, des branleurs ou des, je sais pas, des... Non, c'est pas ça non plus.
Des enfants qui se comportent mal, ouais, garnements.
Des garnements, très bien. Ouais. Ben, ça leur a plu, ils ont gardé ça comme nom. Et ils ont même écrit une chanson, quand c'est contre un de ces quatre, à propos des Scooper, qui s'appelle « I'm so cruel ». Ça, on s'écoutera un de ces quatre. Et voilà, donc il y a un lien entre Alice Cooper et les Bratz. Les Bratz qui étaient un groupe phare de la scène new-yorkaise, avec les Ramones à l'époque, avec Blondie qui commençait, avec des tas d'autres, mais qui n'ont jamais été signés, les malheureux. Avec Kiss, c'était des grands copains de Kiss. Alors il paraît aussi, tant qu'on y est,
oui,
sur
Kiss
les anecdotes.
Kiss a fait la première partie des Bratz.
Kiss a fait la première partie des Bratz. Les Bratz, donc, étaient à l'époque le groupe de Rick Rivets qui avait des liens avec les New York Dolls, hein, qui avait fait partie d'un line-up, disons, précoce des New York Dolls. Le premier concert des Bratz, c'était en première partie des New York Dolls. Et un des premiers concerts de Kiss, c'était en première partie des Bratz à New York. Et il paraît qu'ils étaient très copains et que les Kiss avaient dit ouais, s'il y a un de nous deux qui a du succès, il faudra aider l'autre. Et le mec, il raconte, je ne sais plus, c'est sur un article de presse, il dit « Évidemment, quand Kiss a vu du succès, ils ont oublié leurs promesses. » Et voilà, un des groupes maudits de New York, donc les Bratz. Mais on peut retrouver donc une bonne partie de ce qu'ils ont enregistré sur différentes compilations, notamment celle dont on vient de s'écouter un extrait qui s'appelle « Criminal Guitar » sur Rave Up Records.
Ok, bah écoute, on va s'écouter du grand classique avec les Who. Bon, c'est une version qu'on n'a jamais écoutée, parce qu'il y a plein d'enregistrements publics des Who. Donc celui-ci a été fait le 19 octobre 1969. Et le morceau, bah, tiens, un extrait de Tommy, c'est pas si souvent, 1921. C'est, voilà, en espérant qu'on pourra dire la même chose de 2021, mais j'en doute un peu.
Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. So you think 21 is gonna be a good year? Could be good for me as ever, true as ever, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when what about the boy? What about the boy? What about the boy? His son and all. You didn't hear it, you didn't see it. You won't say nothing to no one. Never in your life, you never heard it. I'll set it on scenes without any proof. Didn't hear it, you didn't see it. You never heard it, not a word of it. You won't say nothing to no one. Never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. To be over-optimistic, but somehow when you smile I can brave bad weather.
So you think 21 is going to be a good year? Bon, ben peut-être, hein. On va voir. En tout cas, c'est le début de la chanson 1921.
Ça démarre pas très fort quand même. Hein.
Oui, parce que bien sûr, dans l'histoire, c'est une partie de Tommy, et dans l'histoire, c'est là que Tommy est traumatisé, parce qu'il est témoin d'un meurtre alors qu'il a 4 ou 5 ans, et ses parents lui disent « tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu », il devient sourd-muet aveugle, tu ne parleras pas, hein, et il devient sourd-muet aveugle, et ensuite c'est... Bon, la suite de l'histoire, n'est-ce pas, bien connue de tous nos auditeurs qui sont des fans des Who.
Oui, ils connaissent tous ça par cœur, évidemment. J'ai beaucoup écouté Tommy, mais mon anglais ne me permet pas de comprendre toutes les subtilités de l'histoire.
Oh, j'avoue que rien qu'en lisant le texte des chansons, même, c'est pas complètement évident, mais il existe un certain nombre d'endroits où tu trouves l'histoire qui est expliquée, parce que Tanzen a dû l'expliquer abondamment.
Eh bien, on va s'écouter un morceau où il n'y a pas de paroles, que des espèces de cris et de chœurs. C'est Big Carrot. J'ai découvert Big Carrot. Tu connais pas Big Carrot?
Oui, je sais pas. C'est Storkuk en anglais?
Eh ben, ça pourrait, oui. Tu vois, moi, je comprends mieux le suédois que... Mais, bah, écoute, on va refaire un blind test, alors. Big Carrot, 45 tours, sorti en 73. Je n'en dis pas plus, j'ai fait un blind test déjà la semaine dernière. On écoute et puis on essaie de deviner qui pouvait bien se cacher derrière Big Carrot, puisque bien sûr c'est un groupe, comment dire, éphémère, qui n'a duré qu'un 45 tours. We'll be right back.
Ah bah c'est T-Rex, on le reconnaît.
Mais oui, c'était T-Rex. Il y a quelques paroles quand même dans ce morceau que j'avais oublié. Je me souvenais des choup choup. C'était T-Rex avec deux invités, Stephanie Sprill et bien sûr Gloria Jones.
Ah oui, d'accord.
Alors je sais pas, c'était en 73, donc c'était un peu les débuts de la collaboration entre Mark Bolan et Gloria Jones qui deviendra sa compagne. Mais le nom de T-Rex n'apparaît pas sur la pochette, donc c'est sorti sous le nom de Big Carrot. Par contre, il y a sur la pochette Mark Bolan Production, un petit sticker comme ça là, tu vois. Donc effectivement, il ne le cachait pas trop. Ce 45 tours n'a pas eu un énorme succès, mais ça reste un truc anecdotique, mais assez rigolo quand même. Donc le 45 tours de Big Carrot en 73.
Eh bien, écoute, dans le genre inconnu anecdotique, on va se passer des vrais inconnus, ceux-là, les Barton Brothers, le Barton Brothers Band. Qu'est-ce que c'est que... Je sais pas où est-ce qu'il est, celui-là. Voilà, c'est des gens qui étaient de l'Ohio et qui, bien sûr, sont sur une des compiles Brown Acid de chez Riding Easy. Alors, Riding, ils viennent de sortir à 12e, je crois. Bon, ça, c'était le volume 8.
Oula.
Oui. Attends, on a du retard, hein.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est le Barton Brothers Band ou le Bartos Brothers Band, parce que selon qu'on lit la liste des morceaux ou le texte de commentaire, c'est deux formes différentes. Hein. Bon, alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont fait une faute de frappe, visiblement, ils n'ont pas grand-chose à dire, parce qu'ils font 5 lignes pour dire « There's very little information ». On n'est même pas sûr du nom, quoi. Si c'est Barton ou Bartos. En tout cas, on va les écouter. C'est un morceau de 77 qui s'appelle « Gambler ».
I'm gonna
les Bartos ou Barton Brothers Band en 77, Gambler.
Bon, on va s'écouter Genesis maintenant.
Ah, c'est audacieux de ta part. Ça va pas être le même.
Comment t'as deviné? Les Genesis américains, bien sûr, de la West Coast, qui ont sorti un album et deux 45 tours à la fin des années 60, début 70. Bien connu.
Oui, enfin, il me semble me souvenir que le groupe Genesis n'était pas conscient de cette coïncidence. Et ensuite, je ne sais plus comment ils se sont démerdés pour résoudre le problème, non enfin,
en tout cas, le
Genesis anglais, ceux qui sont devenus connus.
Les Genesis américains, effectivement, ont un peu disparu des radars. Mais on les retrouve sur une compile relativement récente qui s'appelle White Lace and Strange. Deux volumes. C'est sous-titré Heavy Psych and Power Fuzz from the USA. Donc 68-72. Ça navigue un peu sur les territoires de Brown Acid ou de. Comment ça s'appelait
Bonehead,
Ultimate voilà. Bonehead et tout ça, en quand même en moins velu. Hein.
Ouais, parce que Bonehead, il y a assez peu de psych, disons.
Il y en a, mais c'est vrai que c'est, voilà. Quand c'en est, c'en est
c'est
du.
C'est plus heavy que psych.
C'en est du bien allumé, quoi. Ouais. Hein, disons, ouais. C'est beaucoup plus rugueux. Bonehead, Ultimate Bonehead Cruncher, c'était quand même une compil très rugueuse. Brown Acid, bon, ça ressemble un peu, peut-être avec un petit peu plus d'éclectisme, on va dire. Et puis alors les White Lace and Strange, là c'est quand même, alors c'est des groupes obscurs, mais c'est une musique un petit peu plus classique, on va dire, un peu plus mainstream, avec quand même des choses assez surprenantes.
Ça rappelle peut-être un peu plus les compiles que nous fait Bevis Frond en Europe, c'est les compiles sur Psychic Circle.
Mais c'est plus 60s là quand même.
Oh, tu sais, c'est début 70s, beaucoup des morceaux. Bevis Frond, il nous a donné des morceaux de Jérusalem ou de Triangle, d'ailleurs. Il y a une des compiles du Bevis Frond qui s'appelle Blow Your Cool, d'après le morceau de Triangle, qui était la phase B de Peut-être Demain.
Bah, on va dire que ça se rapproche plutôt de ça, alors, ouais. Bon, cela dit, je les écoutais un peu en diagonale, ces deux compiles, j'y reviendrai. J'y reviendrai dans les semaines qui viennent. Et donc là, on va écouter le morceau Angeline, tiré du célèbre 45 tours de Genesis, les Américains, en 68.
Oui, parce que. Attends, il y a un morceau de Mod Duple qui s'appelle pareil.
Ah, peut-être. Angeline
Non, peut-être pas Angeline, non, attends. Peut-être. Ah, je sais plus, tant pis. Donc, Genesis en
68.
8.
Yellow sun.
Angeline. Les Genesis américains en 68, avec un petit côté hendrixien hein, dans le riff de base.
Ah oui, ouais. Et puis un son effectivement très, très fuzz, très distordu.
Oui, c'était très bon, ils envoyaient la patate. Écoute, on va s'écouter une chose, alors, j'ai quelque chose qui va pas dans cette histoire. Excusez-moi. Oui. Donc on va s'écouter les Penny Peeps. Donc c'est tiré d'une autre compile psychédélique. Alors celle-là, c'est des choses beaucoup plus obscures encore. C'était sorti en 2007. C'était le premier d'une série qui s'appelait Psychedelic Jumble des Anglais. Des Anglais qui nous sortaient des compiles d'acétate de groupes britanniques, donc de disques qui n'étaient pas faits pour être vendus, qui étaient des pressages provisoires de choses faites pour tourner auprès des maisons de disques ou des journalistes pour susciter l'intérêt pour des groupes, et puis qui ne sont jamais sortis, en fait, pour la plupart, ou qui sont demeurés très très rares. Et donc, il y a sur cette compile un certain nombre de groupes vraiment assez oubliés. Enfin, Rupert's People, peut-être ça, il y a quelques personnes qui s'en souviennent. Tinton Abbey aussi, et d'autres. Alors, bon, les Penny Peeps, ce qu'on va s'écouter, ceux-là, je crois qu'ils n'ont jamais eu de sortie officielle. En tout cas, on va s'écouter les Penny Peeps, alors avec un des morceaux, parce que cette compile propose plusieurs morceaux de chaque groupe. Donc un des morceaux de ce Psychedelic Jumble Volume 1, sous-titré « What's the Rush, Time Machine Man ?» ouais, évidemment, si t'as une machine à voyager dans le temps, t'as pas besoin de presser. Donc les Penny Peeps, leur morceau s'appelle « Helen Doesn't Care ». Helen Doesn't Care, par les Penny Peeps, excusez-moi. Un morceau qui reste beaucoup plus engoncé dans les 60s, hein, même si c'est sorti en 68, la même année que celui qu'on a écouté avant.
C'est un peu l'année charnière, hein, 68.
Bon. Ouais, il y a un petit côté Yardbirds, tu vois, dans la guitare, par exemple.
Ouais, ça commence à basculer dans le gros son cette année-là, quoi. Avec Hendrix, et puis... les Yardbirds aussi ont participé à cette évolution.
Oui, et Keith Richards découvrant l'open tuning. Hein.
Oui, voilà. Oui, aussi, c'est vrai. Je reviens sur la scène Zamrock. On a récapitulé ces dernières semaines un peu les leaders de la scène Zamrock, la scène 70s zambienne, inspirée par Hendrix, les Stones et compagnie, avec Witch, avec Museo Tunia, avec... la Ngozi Family et la semaine dernière Chrissy Zebitembo, le batteur de la Ngozi Family, mais qui a sorti deux albums solo assez marquants, entre 76 pour le premier, 77 pour le second, je crois. Et on s'était déjà écouté un extrait de ce premier album solo de Chrissy Zebitembo, My Ancestors, la semaine dernière, mais c'était pas le morceau que j'avais prévu en fait. C'était ma petite couffe technique passée totalement inaperçue. Puisque bien sûr,
j'ai fait tous les morceaux se ressemblent.
C'est ça. Puis évidemment, j'ai fait comme si c'était tout à fait ce que j'avais prévu. Il faut jamais se laisser décontenancer, n'est-ce pas? Et donc, en fait, le Feeling Good que j'ai passé la semaine dernière, on l'avait déjà écouté il y a quelques temps. Alors, je me suis dit quand même, ce coup-ci, on va passer un morceau qu'on n'a pas encore écouté dans Les Bébés Dinosaures de cet album, alors qu'on peut trouver parce qu'il a été réédité par Mississippi Records. Il y a eu toute une série de rééditions de toute cette scène Zamrock, mais pas seulement, la scène nigériane aussi, ou la scène éthiopienne avant ça. Beaucoup de groupes africains ont été réédités par des tas de labels un peu partout dans le monde. Et donc Mississippi Records a réédité cet album solo de Chrissy Zebitembo, mais on s'écoute un morceau qu'on n'avait pas encore passé, ça s'appelle I've Been Losing, c'était donc en 76. Tricote à la guitare derrière, là, c'est bien sûr Paul Ngozi, qui était le boss, le guitar héros de la scène zambienne, et qui était le leader de la Ngozi Family, donc Chrissy Zebitembo était le batteur. Et on retrouve Paul Ngozi et un bassiste qui doit être aussi celui de la Ngozi Family, je crois. Voilà, okay. Son album solo, My Ancestors, en 76.
Si je te dis IAM, ça te fait penser à quoi?
Bah, je sais pas, du rap marseillais.
Mais... Voilà, un groupe de rap marseillais. Ben non, c'est le titre d'un morceau de Triangle en 72. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire.
Les précurseurs du rap marseillais, alors. Ouais, ça, j'en reviens pas.
Triangle, précurseur ignoré du rap marseillais. Enfin bon, c'est une théorie, il va falloir essayer de la vérifier. En tout cas, on va s'écouter le morceau. C'était la face B d'un 45 tours de Triangle qui s'appelait, en face A, le temps des tam-tams.
Ouais, ah bah voilà. Oui,
donc il y a l'unité thématique hein, après le rock africain. Ok, voilà, Triangle.
Pas de stéréotypes, de préjugés, je te prie.
IAM, IAM, je ne sais pas comment il faut prononcer, c'est écrit comme un cycle avec des points derrière chaque lettre, donc IAM, on va dire, de Triangle, en 72.
Eh bien, on va maintenant...
C'était notre 45 tours pourri de l'émission.
Oui, 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 bah, oui, oui, tout le monde l'a bien entendu. qui craquait moins que d'habitude.
Non, non,
même,
il était hein. Plutôt en bon état celui-là, et puis le morceau est défendable. Hein.
Oui, oui.
Ouais, bon, ouais.
Oui. Bon.
Fallait faire une phase B.
Une petite reprise des New York Dolls, c'est autrement défendable quand même. Par les Slaughter the Dogs. Un groupe dont on avait déjà, dans une de nos émissions virtuelles, on avait fait passer un lien pour leur reprise de White Light, White Heat, qui est une de mes reprises préférées de ce morceau du Velvet. Et bien là, ils font une reprise de Mystery Girls des New York Dolls, qui est une bonne version aussi. Un groupe punk britannique qui a sévi entre, je sais pas, 77 et le début des années 80, quelque chose comme ça. Et qui avait des originaux, certains sont assez marquants, d'autres un peu moins, mais leurs reprises sont souvent réussies. Donc là, on va s'écouter un extrait d'un album live qui est sorti en 78 et qui s'appelait Rabid Dogs. Et donc là, le morceau de Dolls qu'ils reprennent, c'est Mystery Girls, Slaughter and the Dogs.
Alors attends, oops, c'est le CD numéro 1.
Ça doit être ça, ouais.
This one's called.
But it's for everyone who wanted it.
This one's called Mystery Girls. It's dedicated to Johnny Thunder and all his boys.
It's the one I wanna take her home. I wanna see, I wanna stay a year. Well, he's the one I wanna take her home. I'm gonna call right through her hair. Oh baby, it's the one who's gonna hide her. It's gonna hide her, it's gonna hide her like a mystery girl. It's the one who's gonna be number. I wanna treat her like a scattered drug.
I'm talking about love. Hey, the mystery girl.
And I wanna know.
Hey, the mystery girl.
Why don't you tell me?
Hey, the mystery girl.
I'm the mystery girl.
Hey, the mystery girl.
So he's the one who's gonna stop her test. He's gonna tell her where she came from. And he's the one who's gonna move down the street. He's gonna tell her, let her go home. Nah, nah, nah. He's the one who's gonna hide her. He's gonna hide her like a mystery girl. The one who's gonna keep on. I wanna treat her like a scattered gun. I'm talking about love.
Yeah, the mystery girl.
And I wanna know.
Yeah, the mystery girl.
Why don't you tell me?
Yeah, the mystery girl.
Oh, the mystery girl.
Yeah, it's the mystery girl.
He's the one who's gonna tell him what's wrong. And love will tell him what don't. And he's the one who's gonna tell her what's wrong. And he'll tell her, let her go home. Nah, nah, nah. He's the one who's gonna hide her. He's gonna hide her like a mystery girl. He's the one who's gonna kick her off. I wanna treat her like a scattered drum. I'm talking about love.
Yeah, the mystery girl.
I wanna know.
Yeah, the mystery girl.
Why don't you tell me?
Yeah, the mystery girl.
I'm the mystery girl.
Yeah, the mystery girl.
It's a wreck, 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 it's a She loves you, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah. About love. Wanna know about love. Wanna know about love. I wanna know about love. Wanna know about love.
Petit clin d'œil aux Beatles, peut-être, à la fin. C'était une reprise de Mystery Girls, des New York Dolls, bien sûr, par Slaughter and the Dogs. Donc, c'est vrai qu'ils avaient un son quand même brut de décoffrage, mais j'avoue que le chanteur avait un certain panache. J'aime beaucoup sa façon hargneuse là, de débiter ses textes.
Ouais.
Si, je te...
Débiter le mot.
Tronçonner, même, on pourrait dire.
Eh bien, il est temps de faire notre rubrique Black Sabbath, au bout d'une heure d'émission. Je trouve que c'est normal. Rubrique Black Sabbath, donc, ce soir, on va s'écouter un disque qui nous a été passé par Louis Fine. Bonjour Louis Fine, que vous avez pu écouter avec nous à l'émission de temps en temps, il y a quelques années. Merci Louis. Et c'est un disque promo, je sais pas comment il faut l'appeler, du merchandising, qui était vendu uniquement au concert de la dernière tournée de Black Sabbath. Donc quand c'était ça, c'était il y a longtemps, vers 2015 par là.
Ouais, par là. Hein, ouais.
Dans lequel il y avait 4 morceaux live. Et 4 morceaux qui étaient des chutes de studio de l'album 13, l'album sorti en 2013, je pense. Et donc, on va s'écouter une de ces chutes de studio. Alors, vu l'âge des membres de Black Sabbath, on peut dire que de nos jours, c'était tout à fait prescient le titre de ce morceau, parce qu'il devrait se l'appliquer. Ça s'appelle Isolated Man. Bon, non, ça va, c'est bon, tout le monde est vacciné en Grande-Bretagne, ils sont tranquilles.
Pas encore, mais bon.
Pas tout à fait encore, mais ça commence à marcher pour eux. Et Isolated Man, donc, de Black Sabbath. Isolated Man de Black Sabbath. Donc ça devait être enregistré en 2013, je pense. Puisque c'est un des morceaux qu'ils n'ont pas mis sur l'album 13. On se demande pourquoi, alors c'est pas mal du tout.
Ouais, c'était un album plutôt pas mal, oui. Le retour d'Ozzy. Eh bien, si je te dis un groupe new-yorkais maintenant, des potes de Kiss, de Blondie, de Ramones, des Dolls.
Tu nous as parlé des Bratz,
complètement oublié.
mais est-ce que c'est encore les Bratz?
Non, il y en avait un autre.
Voilà, hein, forcément.
Les Magic Tramps.
Alors là, effectivement, tu sais.
C'est une découverte totale. Quoi. Jamais entendu parler des Magic Tramps, que les Bratz, on les connaissait un peu. Mais c'est exactement, enfin c'est un peu le même topo, ils n'ont jamais été signés eux non plus, ils sont totalement oubliés. Il y a une compilation qui leur est dédiée, qui est sortie en 2005. C'est un groupe qui a démarré à Los Angeles en fait, dans les années 70, au début des années 70, et qui faisait à cette époque-là une espèce de musique un peu hippie, psyché, un peu folk psyché on va dire, assez agréable. Puis, je crois qu'il y a eu un tremblement de terre ou un mini tremblement de terre, ça les a fait un peu flipper. Hop, ils sont partis à New York. Et alors là, ils ont quand même changé de registre. Alors il y a eu beaucoup de changements de line-up et de musiciens. Ils ont notamment, là, à ce moment-là, recruté un guitariste qui s'appelait Flying Fingers Steve Cavarella. Ils ont eu dans leur line-up un violoniste qui est resté pendant toute l'existence du groupe. Et ils ont eu beaucoup de changements de chanteurs notamment, de guitaristes, etc. Mais quand ce mec est arrivé, ils se sont orientés vers un son beaucoup plus glam, en fait, et beaucoup plus velu. Et c'est là que c'est devenu, alors eux aussi, semble-t-il, un des groupes fétiches de la scène new-yorkaise, mais en même temps que les Bratz, et qui étaient copains avec tout le monde, et qui faisaient des shows très spectaculaires, avec un cracheur de feu, avant Kiss, précise la biographie que j'ai pu regarder. Avec des déguisements, des maquillages, enfin, des allumés, quoi. Et ils ont eu des musiciens occasionnels aussi qui venaient pour les accompagner de temps en temps sur des concerts ou sur une courte période. Par exemple, Chris Stein de Blondie. Ou Ivan Kral du Patti Smith Group. Donc, tu vois, c'était quand même pas des rigolos pour pouvoir jouer avec des musiciens pareils. Eh ben, ils n'ont jamais eu de contrat. Alors, certains disent que ils étaient trop exigeants, ils étaient trop indépendants, etc. Certains disent non, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de bol, quoi. Voilà, ils n'ont jamais pu signer et ils sont totalement oubliés. Et il y a eu cette compilation, donc Kicking Up Moonlight Dust, sortie en 2005, qui rassemble quelques morceaux des débuts à Los Angeles, qui ne sont pas les plus intéressants. Et des morceaux un peu plus tardifs, donc de l'époque New York, qui sont bien meilleurs. Et quelques démos, si je me souviens bien, et des morceaux live. Et là, on va s'écouter un morceau live, donc enregistré au Diplomate Hotel. Il faut dire aussi que c'était des potes de Andy Warhol. Et Andy Warhol les a aidés quand ils sont arrivés à New York. Il leur a trouvé des lieux pour jouer, etc. Il les a hébergés un temps à la Factory. Il traînait aussi avec toute cette bande, tu vois. Et donc enregistré live au Diplomate Hotel en 74, le morceau Long Long Time, et tu vas voir que Flying Fingers de Steve Cavarella, c'était pas un rigolo, hein. Ça on voit, les Magic Tramps.
Looking like some vampires, got a sword and she be telling me that they want my life.
Right, les Magic Tramps. Ben ouais, All Right, mais non.
Incroyable
ils
quand
n'ont
même.
Pas connu le succès, ben ouais.
Enfin, incroyable qu'ils aient pas au moins pu faire, je sais pas, un petit 45 tours, un truc comme ça, un début de production discographique, rien du tout apparemment. Les Magic Tramps, ces groupes totalement obscurs qu'on arrive à redécouvrir encore en 2021. Donc, c'est inépuisable, les 70s.
Et alors, on s'attaque à la suite à un morceau qui s'appelle The Wizard.
Yes.
Mais ce titre est assez populaire parce que bon, c'est pas celui de. Alors, ce taclé, c'est celui de Mark Bolan.
Oui.
C'est qui n'est pas celui de Black Sabbath et qui n'est pas celui que je vais passer, qui est celui de Les Humphries. Alors, c'est nettement moins respectable que Black Sabbath ou Mark Bolan. Mais oui, il a fait aussi un morceau qui s'appelle Wizard. Ça se trouve. Oui.
Oui, donc je dis que le prétexte pour passer Les Humphries est un petit peu léger, là, je trouve, quand même.
Et je vous donne un prétexte pour passer Les Humphries Singers, groupe quand même. Enfin, quel est le seul groupe dans lequel il y a eu des membres qui ont continué dans Bodéhem d'un côté et dans Ariaïb de l'autre? Eh ben oui,
ah bon,
les
là,
Les Humphries
là,
Singers.
Je reconnais que l'argument est imparable, c'est bon. Je...
Et c'est vrai. Et c'est
ce
vrai.
Sera l'occasion de passer la semaine prochaine du Bonième et du Uriahip.
Qu'est-ce que j'ai pas fait? Donc les Les Humphries Singers, c'était en fait un groupe qui avait une chorale, hein, les Singers, qui était une douzaine, enfin ça variait entre 8 et 16 selon les moments, parce que ça embauchait, ça partait, tout ça. Il y avait des gens qui venaient chanter avec eux pour faire des chœurs. Les Humphries écrivait un certain nombre de morceaux, mais il se spécialisait aussi dans la reprise. Surtout sur ce disque-là qui s'appelle Sound 74, dans la série Bunte de Decca. Alors Bunte, ça veut dire multicolore en allemand. Et donc ça, c'est un disque dont on a déjà passé les extraits. Il y avait beaucoup de reprises, c'était fait pour les booms. Les morceaux sont enchaînés, c'est infernal comme rythme. Moitié de tubes, genre de Suzy Quattro par exemple, ou des suites. Et puis moitié morceaux... écrit par Les Humphries. Il y a aussi des reprises de des Rolling Stones, de Grey Glitter, enfin tout tu vois, ce genre de choses. Et donc on va s'écouter ce morceau qui est de Les Humphries lui-même. Alors pourquoi j'ai dit Boney M? Parce que Liz Mitchell, qui a été une des chanteuses de Boney M, a fait partie aussi de la grande chorale de Monsieur Les Humphries, qui était un Anglais installé à Hambourg, hein, en Allemagne. Et aussi un gars qui s'appelait, qui était un Anglais aussi, John Lotton. John Lotton a été ensuite chanteur de Lucifer's Friend et beaucoup plus tard le chanteur de Uriah Heep. Alors c'est pas le chanteur de Uriah Heep de la période principale.
Non. Mais oui, son nom m'évoque quelque chose. Et voilà. Lucifer's Friend, c'était un groupe très populaire, semble-t-il, en Allemagne.
Oui, en Allemagne.
Un groupe de hard progressif, on va dire.
Voilà, un groupe de hard progressif allemand. Mais là, c'est pas progressif du tout, hein. C'est du pop de chez pop, mais quand même un original de Les Humphries qui s'appelle Wizard, je l'ai déjà dit trois fois.
Wizard, look for a spell I can use. Wizard, I'm getting the blues. He's made his own devil's brew. You know what to do. Wizard, wizard, please have a look. What you book? Wizard, wizard, we'll let you go.
Can't do for me from the devil's spell to set me free. rolling stone, like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC.
Digging by Georgie Wonderful. And now we'd like to do Are the Angels Come?
La rubrique Dig It, avec un groupe qui aurait pu être chroniqué dans le Dig It 77, mais le Dig It 77 a été un numéro spécial, le dernier du fanzine, comme vous le savez tous. Et donc, ce groupe, on n'en a pas parlé. J'en profite pour signaler que le site Dig It, le site internet Dig It, va être relifté, est en train d'être relifté, et que la nouvelle version sera bientôt publiée, peut-être elle sera au moment où vous écoutez cette émission. Et donc vous y trouverez notamment quelques numéros de Dig It à télécharger en PDF, et puis une page sur les Shushan Brothers avec la compilation qui avait été faite par le blog Son of the Dolls à télécharger aussi, et des tas d'autres choses. Ça va devenir un site d'archives, disons, pour garder des traces de ces 27 années du fanzine, quand même. Et plus de 31 années, quelque chose comme ça, de l'émission Dig It. 30 ans pour l'émission Dig It. 30 ans, c'est aussi l'âge des bébés dinosaures, hein.
Oui, bah ouais, effectivement. Commencé en mars 91, ouais, le mois prochain.
Bon.
On va peut-être faire une petite émission anniversaire.
Bah écoute, peut-être bien, oui, quand même.
Ah, il faut se la préparer, hein. Alors, s'il y a des gens que ça intéresse, écrivez au bébé dinosaure et dites-nous ce que vous voulez. Mais faites-le vite, hein, parce que là, on est en train d'être diffusé le dimanche 7 mars et l'émission sera sans doute enregistrée peu après. Hein.
Oui, donc. Vous pouvez faire des requests. Il y aura peut-être quelques invités, je sais pas, on verra. Et donc, en attendant, on va s'écouter ce groupe hollandais qui s'appelle Moon. C'est un groupe psyché-pop, on va dire, avec une espèce d'album concept intitulé Safari sur Bickerton Records. Et un morceau qu'on aurait peut-être pu passer, même sans que ce soit dans la rubrique Dig It, parce qu'il y a quand même quelques déchirades de guitare dans mon souvenir, là, qui sont relativement 70s. Un album d'ailleurs qui est dédié à une certaine Mary Jane. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et donc, je pense que Mary Jane a influencé un petit peu la musique de ce disque. Ça s'appelle, le morceau s'appelle Safari Outro. C'est le dernier morceau de l'album, donc Safari, du groupe hollandais Moon, sorti l'an dernier.
Thank you.
déchirante, mais un petit moment à venir. Mais bon, ça montre bien un peu l'ambiance de ce disque. C'est planant, c'est tranquille. Et puis de temps en temps, des petites éruptions de guitare, bienvenue. C'est donc l'album Safari du groupe Moon, sorti l'an dernier sur Bickerton Records.
Oui, la lune, enfin bah, voilà, c'est dimanche
soir, attention.
Les gens s'endorment. Oui.
Moon avec 3 O,
avec 3
je
O.
Précise.
Ah d'accord, ça change tout.
Moon.
C'est un album pour
c'est
les...
C'est la prononciation de Marie-Jeanne, je pense.
Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Moon, man. D'accord. Eh bien, écoute, il est temps de passer le meilleur jingle du monde, non ?
Lequel ? Voyons, je réfléchis. Qu'est-ce que ça peut être ? Ah oui ! Le seul jingle au monde où on entend les soeurs Gwedex, ça c'est sûr.
Oh, t'en sais rien. T'as pas fait le tour des radios bretonnes ? Il y a peut-être des radios bretonnes qui ont les soeurs Gwedex dans leur jingle. Pourquoi pas ? Non, mais c'est probablement le...
Même les bretons ne sont pas aussi extrémistes.
Je crois que c'est le seul jingle au monde à avoir Los Gonococos.
Ça par contre.
Los Gonococos, on va dire... leur œuvre entière se composant de 2,45 tours et une cassette pirate, c'est difficile.
En fait, je me demande si c'est pas Los Gonococos qui devrait nous payer les droits pour avoir popularisé.
Oh malheureux, ne dis pas ça, n'oublie pas que le texte est de Yves Frémion, qui a été chef du syndicat des écrivains de langue française et qui est très sourcilleux sur les affaires de droit. Quand je lui ai dit qu'on passait sa chanson comme jingle toutes les semaines, il a un peu froncé les sourcils quand même. Alors, je suis vite passé à autre sujet.
Oui, il devrait nous remercier, non, honnêtement.
Voilà, Frémion, si tu nous écoutes, ne te fâche pas. Où est-ce que j'en étais ? Bah, écoute, un peu de musique traditionnelle, machin. Et ce soir, du country. Avec Loretta Lynn, qui est quand même... Loretta Lynn, c'est quand même quelqu'un qui, je vous le rappelle, avait été connu pour avoir interprété la chanson The Pill et d'autres chansons de country un petit peu féministes, du moins féministes par rapport à l'ambiance générale du country, qui quand même, parfois...
Et c'était en quelle année, ça ?
Parce que
elle est relativement...
Début des années 70.
Ah, quand même, oui.
Et fin des années 60... En fait, elle avait été encouragée par son mari, mais elle était mariée, elle avait fait je ne sais plus combien de gosses, c'est quelqu'un qui en voulait, quoi. Alors, c'est pas une créatrice comme Dolly Parton, hein. Dolly Parton, hein, elle est maintenant reconnue pour ce qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement créatif et qui a mené sa carrière comme elle l'entendait, tout en se donnant une image extérieure de poupée pour passer avec un public qui, bon, hein... Parfois, quand même, assez grave. Et,
disons qu'elle était une des premières aussi à maîtriser complètement sa musique. Quoi. Enfin,
voilà, oui, oui. C'est elle qui a tout fait, tout en donnant l'impression d'être une marionnette. C'était très malin de sa part, et elle continue, elle est devenue très riche. Elle a, je crois, pas mal subventionné les recherches pour je ne sais plus quel vaccin contre le Covid. Là. Enfin, Dolly Parton, faut se méfier. Alors, je crois bien que c'est elle, hein. Je ne crois pas dire de bêtises. Mais peut-être que j'en dis, hein, c'est les bébés dinosaures. Et donc, Loretta Lynn, elle a moins écrit ses propres chansons, mais elle a repris pas mal de textes qui pouvaient scandaliser le public un peu conservateur quand même. Et là, on va s'écouter un texte, alors beaucoup plus... comment dire, c'est pas d'elle, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Miller, qui est d'une facture beaucoup plus classique dans le milieu de la country, c'est-à-dire, c'est une femme trompée. Parce que, bien sûr, dans les chansons de country, tous les maris sont alcooliques et coureurs de jupons, et quelque part, ils trouvent que c'est bien. Mais quand c'est Loretta Lynn qui chante, c'est un peu plus sarcastique.
Quand c'est un mec qui chante, c'est lui qui chante ses dérives alcooliques.
Ah oui, tu sais, et ses galipettes. Alors par contre, quand sa femme le trompe, c'est terrible. Non, bon, là, c'est, je pense, une histoire de femme trompée, mais et chantée sur un ton assez sarcastique. Ça s'appelle « It wasn't God that made honky-tonk angels ». C'est pas Dieu qui a créé les anges du honky-tonk. Le honky-tonk étant les bars mal famés, n'est-ce pas ? Donc, Loretta Lynn, en 70. Cette chanson est une chanson qui avait été à l'origine hein, quand même enregistrée en 1952 par Kitty Wells, une chanson, une femme qui chantait de la country et qui avait aussi pas peur de se mouiller. Et elle était écrite par un certain Jay Miller. Et c'est une réponse à une chanson de Hank Williams, The Wild Side of Life. Dans lequel il y a la phrase « I didn't know that made God honky-tonk angels ». Et alors là, la chanson de Hank Williams, c'est bien sûr une chanson de country traditionnelle dans laquelle il y a un homme qui reproche à sa femme d'être infidèle, etc. « Tu as rencontré un ange à le honky-tonk, etc. » Et bon, là c'est la réponse d'une femme à un homme qui dit « C'est plutôt les hommes qui sont infidèles ». Ça a eu beaucoup de succès en 52 et donc on a écouté la reprise par Loretta Lynn en 70. Je recommande à tout hasard l'album que Loretta Lynn a fait, alors beaucoup plus vieille, il y a une dizaine d'années, avec Jack White.
Oui, ça me dit quelque chose.
Qui s'appelle Van Leer Rose et qui est excellent. Bon, peut-être que c'est temps de finir un bébé dinosaure, on a nos 5 minutes de retard traditionnel.
Oui, écoute, je te laisse conclure avec les rappels habituels.
Oui, alors les bébés dinosaures, donc, ça passe normalement les dimanches. Alors c'est des rediffusions à l'heure actuelle, vu les vagues, les ennuis que nous fait le couvre-feu. Et on l'enregistre en fait les samedis matins, il ne faut pas le dire. Et... Donc tous les dimanches de 21h30 à 23h sur le 92.2 MHz de Radio Canal Sud dans la région toulousaine, mais bien entendu aussi tous les dimanches de 21h30 à 23h en direct sur le player internet de Canal Sud qu'on va trouver sur notre URL sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Et là aussi, on trouve les archives de l'émission. Donc, quelques centaines, plus de 400 en fait, émissions enregistrées en MP3 avec la programmation, avec pour vous prévenir de ce qui vous attend. Hein. Depuis quelques années, hein, on passe tous les dimanches soirs, on passe aussi en rediffusion les lundis de 15h30 à 17h sur les mêmes 92.2 MHz de Canal Sud. Et on vous recommande d'écouter Canal Sud quand vous pouvez, de l'écouter le jeudi soir une fois par mois pour l'émission After chez Eddy, c'est ça ?
Oui.
Alors, ça doit être le premier jeudi de chaque mois ?
C'est ça, il me semble, oui.
Donc, vous l'avez déjà raté parce que là, on est le dimanche 7 mars et c'était jeudi dernier, mais tant pis.
Ils ont fait leur première émission jeudi dernier.
Voilà. Au même horaire, 21h30, 23h, puis il y a plein d'autres choses intéressantes qui passent sur les ondes de Canal Sud, comme par exemple la Foire des Ténèbres, un dimanche par mois, en général, de 20h à 21h30, quand on se débrouille. Et
Black Connection aussi, juste avant les bébés dinosaures, voilà. Je ne sais pas s'il a repris.
Si, Fred, ouais. Donc ça va être de 18h à 20h, lui, quelque chose comme ça, voilà. À peu près. On vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine. Alors il faudrait que je retrouve le générique de fin, mais il doit être là.
Je sais pas s'il y a l'émission de blues aussi.
Route 66, est-ce que ça continue aussi l'histoire? Je sais pas.
J'ai pas écouté depuis un petit moment, mais tendez l'oreille
toujours,
le jeudi.
Elle est toujours en principe de 20h à 22h le jeudi, d'après la grille, mais il va falloir vérifier. Hein, où en suis-je? Je cherche comment passer le jingle de fin, mais je le trouve.